Laurent Cordonnier, vous êtes à la fois doyen de la faculté d'économie de l'Université de Lille, professeur et économiste. On vous contacte pour vous demander un petit peu comment ça se passe pour vous la gestion de crise de ce coronavirus. D'abord, les universités sont fermées. Aviez-vous anticipé, pris déjà des mesures auparavant ?
Alors, pour bien préciser, je suis doyen de la faculté de sciences économiques et sociales, parce qu'il y a à la fois de la sociologie et de l'économie dans cette faculté. Oui, l'université avait anticipé les choses depuis une quinzaine de jours. Déjà, elle préparait ses plans de continuité d'activité, à la fois des plans de continuité pour la partie pédagogique, l'enseignement, mais aussi pour la continuité de certaines recherches stratégiques qu'on ne peut pas arrêter. Et puis, plan de continuité également administratif, parce qu'il y a quand même certaines fonctions, vous l'imaginez, complètement cardinales, qu'on ne peut pas non plus supprimer. Donc, ça fait une quinzaine de jours que nous étions, disons, déjà en ordre de marche, avec cette perspective plausible de la fermeture au public, mais dont on ne connaissait évidemment pas la date de mise en œuvre.
Alors, est-ce que des enseignements se poursuivent à distance et par quels moyens ?
Alors, sur le volet de l'enseignement, c'est effectivement, c'est bien le principe. Hein. Nous avons supprimé l'accès au public des locaux. C'est dans ce sens-là que l'université est fermée. Et nous basculons totalement en enseignement à distance. Alors, avec l'utilisation d'un certain nombre de moyens qu'on a déjà un peu l'habitude d'utiliser, mais qui nous permettent de transmettre les connaissances. Ça peut être parfois directement par mail, par fichier adressé par mail, par polycopier de cours, par PowerPoint avec commentaires, audio, vidéo. Ça peut être des contenus partagés sur des plateformes comme la plateforme Moodle. On a toute une palette de moyens à notre disposition qui, cette fois-ci, vont être utilisés à très grande échelle hein, pour essayer de terminer le second semestre dans des conditions alternatives, pas trop dégradées, qui permettront la validation, enfin, si le calendrier peut tenir, mais la validation des formations et des diplômes dans le calendrier prévu.
Est-ce que vous avez constaté que certains étudiants avaient des difficultés justement à pouvoir continuer les cours à distance ? On sait qu'il y a quand même des zones blanches, notamment dans les milieux ruraux. Est-ce qu'il y a des ordinateurs qui sont prévus à cet effet ou des choses pour imprimer, etc.
Pour l'instant, c'est évidemment une chose cardinale que l'on aimerait savoir. Mais à peu près 48 heures après la mise en œuvre, 72 heures après la mise en œuvre de ces mesures, on est complètement incapable de faire un point là-dessus. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas considérer comme évident que tout le monde a accès facilement au contenu numérique qu'on va transmettre à distance. Parce que tout le monde n'a pas forcément un ordinateur, tout le monde n'a pas forcément une connexion Internet. Ce qu'on sait quand même, c'est que pratiquement la quasi-totalité des étudiants ont un smartphone et peuvent consulter donc leur mail et même télécharger des fichiers sur leur smartphone, donc ça nous rassure un peu. Mais non, on n'a pas cette garantie et c'est pourtant un point clé puisque on est supposé garantir l'équité de la transmission des connaissances aux étudiants, donc... C'est un point de vigilance fort, et là où on verra qu'il y a des trous dans la raquette, il faudra essayer d'aller chercher les étudiants un par un pour voir que faire avec eux. Oui.
Les personnels, enseignants, personnels d'entretien, vous-même, est-ce que vous venez à l'université ? Comment ça se passe, l'ambiance ?
Non, tous les personnels, que ce soit les personnels administratifs et techniques, et les personnels enseignants sont maintenant en télétravail, sauf quelques personnels qui ont été réquisitionnés pour rester sur place dans le cadre du plan de continuité, mais c'est vraiment une frange infime du personnel qui est dans ce cas-là. Donc pour ma part, je suis également confiné chez moi. Nous devons, l'équipe de direction de la faculté, avec l'ensemble des directeurs de formation, avec les directeurs de département, doivent organiser, réorganiser d'une certaine façon la chaîne de décision et d'information de manière à ce qu'elle fonctionne en distanciel. Oui. C'est un peu rock'n'roll, mais voilà, ça motive.
Et vous, comment vous vivez cette période en tant que doyen, en tant qu'enseignant, plus personnellement ?
On le saura mieux dans quelques mois, on le saura mieux en parler. Hein. Mais c'est vrai que c'est singulier, c'est totalement singulier. Bon, on peut s'avouer une chose, c'est que le quotidien d'un doyen ne change pas fondamentalement, hein, parce que c'est quand même 10 à 12 heures la tête plantée dans son ordinateur, à traiter du juridique, du management, du décodage, des consignes, des réponses à des mails. Donc j'ai pas l'impression de faire quelque chose de fondamentalement différent que lorsque je suis sur place à la faculté. Évidemment, on ne partage plus ces moments agréables où on voit les gens en vrai, comme on dit. Bon, mais je pense qu'en effet, on était déjà plus ou moins adapté dans l'enseignement supérieur à traiter les processus comme on les traite aujourd'hui. Parce que d'abord, déjà, beaucoup d'enseignants fonctionnaient de chez eux. Pas quand ils faisaient cours, évidemment, mais une grande partie du travail peut se faire aussi bien au bureau qu'à la maison, hein, c'est évident. Donc ça n'a, semble-t-il, pas perturbé énormément nos collègues.
Alors, vous êtes également économiste, donc du coup, la situation sanitaire conduit à une certaine situation économique, une espèce de capitalisme ralenti. Au travers des propos du président Emmanuel Macron, le discours a tout le moins changé. Certains secteurs n'ont pas à être dans le marché, quoi qu'il en coûte, entre guillemets. On passe à la fabrication des médicaments Inde-Chine, relocalisation, ouverture de crédit d'État massif, tant pis pour le PIB, la dette, etc. Comment vous voyez ça, vous ?
Il faut sans doute séparer au moins les événements de court terme et puis ce que ça produira à long terme. Sur le court terme, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de subir comme, entre guillemets, choc économique dans le sillage de la pandémie, normalement, on n'est pas censé durer plus de 2 mois, 3 mois ou 4 mois si un rebond. Donc, ça reste du court terme. Et évidemment, avec les mesures choc prises par l'ensemble des gouvernements occidentaux, on commence à saisir assez bien les effets qui auront lieu à court terme. On va vers une récession, ça s'est avéré, qui ne ressemblerait pas quand même à une récession aussi profonde, loin de là, hein, à celle de la crise de 2008, pire encore à la crise de 1929, parce que les acteurs savent déjà que c'est une période temporaire et que l'effet de sortie sera peut-être symétrique à l'effet d'entrée. Bon, les gens qui n'auront pas consommé pendant un certain temps déstockeront peut-être leur épargne en fin de période. Donc ça ne conduit peut-être pas à bouleverser fondamentalement les attentes des acteurs. Simplement, pendant 2 mois, tout le monde l'a compris, il va y avoir un sacré trou, quoi. La production est carrément amputée de pans entiers. Et évidemment, ça va peser sur l'activité. Et l'emploi, ça c'est une autre question, parce que ça dépend de la manière dont les gouvernements apporte la réponse. Mais donc, à court terme, c'est sûr, un choc économique brutal, mais transitoire, et qui peut-être ne sera pas aussi douloureux que les précédents. Maintenant, la façon dont chaque pays va ressortir de cet épisode dépend crucialement des mesures de politique économique qui auront été prises par les gouvernements. Et jusqu'ici, on peut penser que les mesures prises par le gouvernement d'Édouard Philippe sous l'impulsion du président Macron ont l'air d'avoir pris la chose au sérieux et d'avoir mis des filets de sécurité importants pour pour que ça se termine pas par, enfin, ça se termine ni ne commence d'ailleurs par une tragédie en termes d'emploi et de faillite d'entreprise. Donc les mesures comme le renforcement et la simplification du licenciement, pas du licenciement justement, du chômage partiel, les facilités de trésorerie mises à disposition de l'ensemble des entreprises, en particulier les PME certes, mais pas seulement les PME, toutes les mesures prises au niveau, disons, des garanties de minima sociaux, sont extrêmement importantes pour éviter des plans de licenciement massifs et des faillites d'entreprises. Dans l'urgence, là, oui.
Oui, j'allais vous demander justement, est-ce que c'est une période qui va voir ou qui va donner à réfléchir sur la fin d'un néolibéralisme, un retour de l'État public ?
Alors ça, en effet, c'est la bonne question à plus long terme. Hein. C'est-à-dire, bon, il y aura forcément un jugement sur est-ce que la crise au niveau économique a été bien gérée, mais il y aura aussi une réflexion de plus long terme. Est-ce que ce virus signifie la fin du néolibéralisme ? Est-ce que ce virus est de gauche ? Il y a quand même des choses assez intéressantes, c'est que, en effet, il ne s'est pas trouvé beaucoup de zozo. Enfin, j'ai pas évidemment épluché toute la presse mondiale, mais il ne s'est pas trouvé beaucoup de zozo dans les gouvernants et les dirigeants économiques et ni même à la tête des grandes institutions internationales pour dire en matière de coronavirus comme en matière de transport public, la seule et bonne solution, c'est le marché et la concurrence. Et il n'y a qu'à laisser faire, le coronavirus, le marché va s'en occuper. Donc je pense que ce petit virus est venu dire qu'il y a peut-être une limite à l'endoctrinement idiot qui a gouverné les politiques économiques depuis 40 ans, idiot et paresseux, qui en toute matière disait la bonne solution c'est le marché. Là, personne n'a osé dire il n'y a qu'à laisser faire. Le marché va prendre ça en charge, et on a vu en effet que les gouvernants ont quand même eu en matière économique des réponses, si elles ne sont pas toutes intelligentes, en tous les cas elles sont toutes fortes et elles font tout appel à la règle, à l'organisation publique, à l'argent public. Et en effet, on voit que notre pire ennemi, dans ce choc pandémique, notre pire ennemi serait la désorganisation. Or quand même, on voit à certains endroits que notre inclination pro-business, pro-concurrence et pro-libérale a semé quand même le foutoir. Il y a quand même des endroits où on ne sait plus s'organiser. Voir que, par exemple, le circuit des médicaments est devenu complètement improbable, voir que 80% de nos principes actifs sont fabriqués pour les médicaments hors Europe, c'est quand même un monde. Le circuit des masques chirurgicaux ou des masques préventifs pour le virus a l'air aussi, lui, complètement désorganisé. Les points d'engorgement dans les services publics hospitaliers, qui est en fait le nœud même de la dramaturgie, est aussi une question d'organisation collective. Et on voit bien que c'est pas le marché ou les règles de management néolibéraux qui ont permis que tout ça se passe bien à cet endroit-là. Donc en effet, j'ai l'impression qu'il y a, en tous les cas, il y a matière à une remise en cause radicale de cet a priori, suivant lequel moins on s'occupe des choses, plus elles s'organisent d'elles-mêmes, et meilleur sera le résultat. Je crois qu'on va découvrir que nous avions, nous, une tradition de république bien organisée, dans laquelle l'État avait une grande part à prendre en termes de réglementation et d'intervention, de pilotage aussi des entreprises. Peut-être qu'on va redécouvrir cette vertu. Mais c'est un gros peut-être, hein, parce que si dans 6 mois tout va bien, c'est-à-dire que finalement le creux de PIB n'est pas si sévère que ça, si les entreprises n'ont pas trop licencié. Il a même été question à un moment, les Échos l'avaient annoncé en breaking news, que le gouvernement interdit les licenciements. pendant la crise. Bon, ça ne s'est pas fait. Mais s'il n'y a pas trop de licenciements, si le PIB n'a pas plongé, cet épisode sera peut-être très vite oublié, surtout si ensuite on découvre qu'un médicament qui est en train de tester a une grande efficacité contre le coronavirus, on l'attendra de pied ferme l'année prochaine, l'année suivante, et peut-être ses copains avec, parce que ce médicament pourrait être à large spectre. Donc la faculté d'oubli, elle est quand même très forte, hein. On pourrait rentrer dans des années folles qui nous préserveraient pas forcément d'un incident suivant qui ne serait pas forcément un virus, hein, mais qui viendrait tester notre capacité à nous organiser ou pas.
Et pour faire un peu d'humour, on peut peut-être éventuellement prédire que si c'est lui le principal suspect, le pangolin donc aura contribué à la fin du néolibéralisme.
Oui, mais ne chargeons pas la bête, parce que ça ressemblerait fort à un phénomène de bouc émissaire. Ce n'est pas le pangolin, c'est ceux qui l'ont mangé.
Ouais.
Ça me dit problème.
Alors, j'ai encore deux petites questions. La première, d'une manière plus générale, comment vous voyez, vous, cette frénésie des gens qui envahissent les supermarchés, qui dévalisent? Est-ce que ça va avoir un impact aussi sur l'économie?
Non, ça ne fait du mal qu'à ceux qui le font à contre-temps. On comprend la prudence, hein, il ne faut pas blâmer cette forme de rationalité. La prudence, c'est d'essayer d'agir en prévision d'un risque ou d'un péril qui peut très bien ne pas se manifester, mais qui peut aussi se manifester. Donc, aller faire ses courses et aller faire un très gros plein quand on prévoit un péril ne me semble pas a priori relever d'un réflexe bestial, mais d'une certaine forme de rationalité. Le problème, c'est que tout le monde le fait trop tard. Si la population, dès les premiers signes, il y a un mois ou un mois et demi, voyant ce qui se passait en Chine, voyant ce qui se passait en Italie, se disait « oh là là, bah, c'est pour nous ». Pour bientôt, et si cette population avait fait ses courses en étalant quand même tout ça, ce réflexe de prévoyance et de précaution pourrait presque être jugé moralement bon. Mais évidemment, l'anticipation, quand la chose s'est déjà produite, n'est plus une qualité intellectuelle, n'est-ce pas? Et ben voilà, ce qui fait que quand nos populations sont éduquées par Hanouna, énergie 12 et W9, faut pas s'attendre non plus à ce que elles lisent des traités kantiens avant d'aller faire ses courses.
Et ma dernière question, à votre avis, est-ce que le gouvernement a bien anticipé les choses? Est-ce qu'il se comporte d'une manière, plus que sérieuse? Et est-ce qu'il a fait le nécessaire? Voilà, c'est surtout ça que je voulais vous demander.
Bon, là, ça sort peut-être largement de mes compétences, et donc ce que je vais dire n'est peut-être pas plus instruit qu'un commentateur du soir sur un plateau bavard. J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que surtout que les arbitrages qu'il faut faire dans ces périodes-là sont quand même des vrais dilemmes, quoi. Il faut arbitrer entre, en effet, la situation économique et sociale et ne pas prendre de précautions inutiles qui foutraient tout par terre, parce qu'on voit déjà que quand le moment vient, c'est dramatique. Et en même temps, ne pas prendre trop de risques au niveau sanitaire, bien identifier le point d'engorgement, qui est encore une fois les services de réanimation, enfin, ou de soins intensifs dans les hôpitaux. Donc, je pense qu'il a pris les bonnes décisions au bon moment. Il n'a pas joué petit bras, y compris au niveau économique. Son dispositif semble sensé, équilibré. Il y en a pour les entreprises, il y en a pour les ménages, il y en a surtout pour la stabilité de l'emploi. Oui, j'ai tendance à dire comme ça, mais suis-je plus éclairé qu'un autre que la situation est bien gérée. Et en particulier, je suis très très impressionné par le nouveau ministre de la Santé, qui a l'air, avec toute l'aide qui lui est apportée, bien sûr, mais qui a l'air d'être une personne raisonnable.
Laurent Cordonnier, merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour répondre à mes questions. Et puis, ben, on va vous souhaiter un bon confinement et en espérant que ben, le travail donc, au niveau des étudiants de l'université reprenne assez rapidement. Voilà.
Ben, et à vous, bravo à tous les gens de PFM pour maintenir le service public et l'intérêt général dans ces conditions qui ne sont pas faciles. À bientôt.